VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal. Le Niger va célébrer de la sobriété vendredi le 57e anniversaire de son indépendance, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre nigérien Brigui Rafini. Et ce, en signe de compassion pour les victimes des attaques djihadistes de Boko Haram. L'heure est à la compassion également avec ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Mali et en France, a déclaré le Premier ministre Rafini à la presse à Maradi, capitale économique du Niger, qui accueillera cette année les célébrations de la fête de l'indépendance. Les compétitions de football et surtout de lutte traditionnelle, sport roi au Niger, ont été annulées. En lieu et place des festivités, un défilé symbolique en présence du chef de l'État Mahamadou Issoufou. Rappelons que le groupe islamiste nigérian Boko Haram continue ses attaques dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, et que l'armée nigérienne peine à contenir ses incursions meurtrières. Au Bénin, il y a quelques jours, contre toute attente, le président Yayi Boni portait son choix sur le Premier ministre Lionel Zinzou comme candidat unique de la coalition au pouvoir. Le chef du gouvernement est donc le seul porte-étendard désigné pour défendre aux élections présidentielles du 28 février l'héritage politique du président Yayi Boni. Mais Lionel Zinzou ne semble pas faire l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle, alors que certains essaient de convaincre les militants à la base de la nécessité de ce choix, d'autres le désapprouvent. Les précisions de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Le Premier ministre Lionel Zinsou, choisi comme candidat unique des Fausses Coris pour un Bénin émergent, reste un géant tous coincé dans la gorge des partisans du chef de l'État. Mais plus encore, dans le rang des populations, on se dit fatigué de ces hommes venus de nulle part qui prennent le pouvoir et qui, par la suite, ne parviennent pas à bouger les choses pour avoir reçu une éducation autre que celle en face d'eux. En tout cas, c'est l'avis du citoyen dans la rue qui pense, à tort ou à raison, que ce choix a été imposé par la France.
Lionel Zinsou ne me plaît pas, moi. On ne le connaît pas.
Si le choix ne tenait qu'à moi, je pense quand même que ce choix-là n'est pas un choix qui convient au Bénin. Il faut quelqu'un qui connaît le pays, qui a vécu nos réalités, qui connaît bien ce qui se passe dans le pays. Je pense suffisamment que ça, là, ce n'est pas adéquat. On va toujours retomber dans les mêmes erreurs.
Lionel Zinsou est pour moi une pilule qu'on impose au peuple béninois et qui est difficile à avaler.
Mais le débat quittera très tôt la rue pour s'incruster au sein de la famille politique de Thomas Boniaï. Trois des membres fondateurs et pas des moindres des Fausses Coris pour un Bénin émergent feront une sortie médiatique qualifiant le choix opéré par leur leader de nul et de non avenu. Pour eux, choisir Lionel Zinsou serait une injure portée à tous les alliés des premières heures des deux mandats de Yayi Boni.
Aucun des candidats à la candidature FCBE n'a d'ailleurs jusqu'alors élevé publiquement la moindre protestation pour dénoncer cette chose-là. Leur attitude est de nature à crédibiliser la thèse qui à tort estime qu'il n'y a pas de militant FCBE valable et capable de succéder au président Yayi Boni pour aller jusqu'à importer puis d'imposer un halogène qui a le mérite de ne remplir aucun des critères définis par la pseudo-commission de candidature.
Nous sommes dans un état de droit. Les tribunaux seront saisis. La Cour constitutionnelle va connaître du dossier.
Mais si vous êtes à votre place, comment allez-vous réagir? À moins que vous soyez des veaux, vous allez réagir en disant attention, le principe des textes n'est pas respecté.
Le consensus a du mal à se faire autour du dauphin de Yayi Boni. Lionel Zinsou est criblé de tous les reproches. Par exemple, certains Béninois ne comprennent pas comment un homme qui désire diriger le Bénin choisit pour ses sorties médiatiques rien que des chaînes étrangères. Les jours à venir seront déterminants. Peut-être que d'autres ténors des Fausses Coris pour un Bénin émergent sortiront de leur silence pour approuver ou désapprouver cette candidature qui fait couler actuellement au Bénin assez d'encre et de salive. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant. En Centrafrique, le dépouillement du vote au référendum sur la réforme de la Constitution est en cours après deux jours de scrutin. Les opérations de vote ont été prolongées pour cause de violence à Bangui notamment. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Tatiana Mosso.
Jusqu'à lundi, il y avait encore des opérations de vote dans au moins quatre centres à Bangui. En province, les villes de Ndélé, Bossangoa, Kagabandoro ou encore Bria ont été en mesure de voter. À noter qu'aucune opération ne s'est tenue à Benzambé, dans le fief de Bozizé, dans le centre du pays. Au Tchad et au Cameroun, les centrafricains de la diaspora ont également pu voter, et ce 24 heures après le jour officiel du scrutin. Malgré les violences et les difficultés techniques, la majorité des votes ont bien eu lieu dimanche. Le soir même, des premiers dépouillements avaient commencé. L'ANE, l'autorité nationale des élections, doit faire de premières estimations sur le taux de participation au vote, sans avoir pour autant précisé de date pour les résultats. Des résultats qui sont attendus dans un délai d'au moins une semaine, un délai court qui devrait servir de repère pour le très attendu scrutin présidentiel du 27 décembre prochain. Environ 2 millions d'électeurs centrafricains seront une nouvelle fois appelés aux urnes. Tatiana Mosso, Bangui, VOA Afrique.
En RDC, le président Joseph Kabila, dans son discours annuel devant le Parlement, déclarait lundi que les solutions aux problèmes de son pays ne viendront pas de l'extérieur, mais des Congolais eux-mêmes. Il a également accusé l'opposition d'adopter une posture négativiste et de refuser le dialogue. Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition, estime que l'instigateur des crises au Congo, c'est le président Kabila lui-même.
Mettre fin à la crise, c'est d'abord détruire et liquider le régime de M. Kabila qui aujourd'hui vient de s'afficher comme étant un régime dictatorial, antidémocratique et anticonstitutionnel. La solution passe par la conjugaison des efforts pour détruire d'abord le régime de M. Kabila qui est en train d'aller petit à petit vers une dérive dynastique du pouvoir dans notre pays.
Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition, joint à Bruxelles. Crise burundaise maintenant, un projet de résolution déposé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission au Burundi pour enquêter sur de possibles violations dans ce pays en proie à la violence depuis plusieurs mois. Plus de détails avec Jacques Aristide.
La résolution sera débattue jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil à Genève, saisie par les États-Unis pour examiner la situation au Burundi. Une initiative qui intervient après une attaque coordonnée vendredi contre trois camps militaires. Elle a été attribuée à des insurgés et un bilan officiel a fait état de près de 90 morts. Le texte appelle le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, à déployer en urgence et aussi vite que possible une mission pour mener une enquête rapide et complète sur les violations des droits de l'homme. Les signataires demandent que soient fournies au Conseil toutes les ressources nécessaires pour remplir son mandat et notamment que le gouvernement burundais autorise la présence d'experts étrangers. Dans plusieurs quartiers de Bujumbura, les habitants ont accusé les forces de l'ordre d'avoir arrêté tous les jeunes qu'ils rencontraient et de les avoir exécutés sommairement plusieurs heures après les attaques. Ces violences sont les plus graves depuis un coup d'État manqué en mai, déclenché par la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat qu'il a obtenu à l'élection qui a suivi en juillet.
Le parti au pouvoir au Zimbabwe a officialisé ce week-end la candidature du président Robert Mugabe à un nouveau mandat en 2018. Mais la santé visiblement fragile du chef de l'État qui a 91 ans alimente les spéculations sur l'identité de son successeur, Nathalie Barge.
Ces derniers mois, Robert Mugabe a montré des signes de faiblesse plutôt inhabituels pour celui qui dirige le Zimbabwe d'une main de fer depuis 35 ans. En septembre, il a lu pendant 25 minutes un discours mot pour mot identique à celui qu'il avait prononcé un mois plus tôt, manifestement sans s'en apercevoir. Il a également trébuché par deux fois lors de récentes sorties publiques. Au sein de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, ses signaux ont lancé la bataille et les divisions autour de la succession de l'inamovible président. Pour l'heure, Mugabe s'est toujours refusé à désigner un successeur et vendredi, il a critiqué les divisions qui minent son parti à l'occasion de la conférence annuelle de la ZANU-PF. L'économie du Zimbabwe est en crise depuis 15 ans et une réforme agraire controversée qui a brisé l'agriculture, secteur clé de l'économie, a conduit à une hyperinflation et fait bondir le chômage.
Et pour terminer, l'actualité aux États-Unis, 3 ans après le massacre de l'école Sandy Hook de Newtown au Connecticut, le président américain Barack Obama assure que sa détermination à durcir la législation sur les armes à feu reste intacte malgré l'opposition du Congrès contrôlé par les républicains. La Maison-Blanche étudie actuellement plusieurs mesures que le président pourrait prendre sans passer par un vote de la Chambre ou du Sénat. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.